Livre 9e. Dans la fournaise. Chapitre 1. Quelque chose de trop. Ce jeune homme est-il fou ? Demanda Sheldon. Et il rentra dans son cabinet dès que Valentin eut passé devant lui dans l'antichambre. La question n'était adressée à personne en particulier, et Diana, qui se trouvait près de la porte par laquelle entrait Sheldon, prit sur elle d'y répondre. « Je pense qu'il est bien tourmenté, » dit-elle à voix basse. « Qu'est-ce qui l'a amené ici juste en ce moment ? Il ne savait pas que nous dussions revenir à la maison ?» Nancy se chargea de répondre. « Il était venu chercher quelque chose pour Miss Charlotte, quelques livres qui sont dans sa bibliothèque. On ne les lui avait pas envoyés, et il venait dire qu'on les lui fit parvenir. « Quels livres ? » murmura Charlotte. Une pression de la main de Nancy l'empêcha d'en dire davantage. « Je n'ai jamais rencontré personne ayant aussi peu d'empire sur lui-même, » dit Sheldon. « S'il est dans l'intention d'aller et de venir ainsi dans la maison, je mettrai complètement fin à ses visites. Je ne puis souffrir cette manière d'agir. Pour Charlotte, le calme est indispensable, et si la présence de Mr. Hawkehurst est une occasion de bruit et d'émotion, Mr. Hawkehurst ne franchira plus le seuil de ma maison. » Il parlait avec une colère contenue et avec un effort si évident pour ne pas la laisser éclater, qu'il semblait que son indignation contre Valentin n'était pas une irritation ordinaire. Charlotte saisit ses dernières paroles. « Cher papa, » dit-elle d'une voix défaillante, « je vous en prie, ne vous fâchez pas contre Valentin, il est si inquiet à mon sujet. » « Je ne suis pas fâché contre lui, mais tant que vous êtes malade, je veux la tranquillité à tout prix. »« Alors vous n'auriez pas dû ramener Charlotte ici, » s'écria Georgie d'un ton lamentable. « Car de toutes les misères de la vie, il n'y en a pas de plus terrible que de rentrer dans une maison qui subit un nettoyage à fond. Il avait été convenu entre Nancy et moi qu'un nettoyage général serait fait pendant notre séjour sur le bord de la mer. » Nous devions rester absents 15 jours, et à notre retour, nous aurions tout trouvé en ordre et propre. Mais voilà que nous revenons moins d'une semaine après notre départ, et tout est sens dessus-dessous. Où allons-nous dîner ? Je n'en sais rien. Quant aux tapis, ils sont tous partis pour qu'on les batte, et Nancy me dit qu'on ne les rapportera pas avant vendredi. « Nous pouvons vivre sans tapis, » répondit Sheldon d'un ton dur. « Je suppose qu'on s'est occupé de la chambre de Miss Halliday, » ajouta-t-il en s'adressant à Nancy. « Pourquoi n'allez-vous pas voir ce que les filles font là-haut ? Sarah sait ce qu'elle a à faire. Les chambres à coucher ont été faites les premières, et il ne manque rien dans celles de Miss Charlotte. » Sheldon se laissa tomber avec l'air fatigué sur une chaise. Il était pâle et défait. Pendant le voyage, il ne s'était pas un instant ralenti dans ses attentions pour la malade. Mais le voyage avait été fatigant, car Charlotte était très malade, si malade qu'elle était incapable de songer à épargner la peine des autres. Les faiblesses, les vertiges, les demi-évanouissements, la démarche chancelante ressemblant plus à l'ivresse qu'à la faiblesse, les voiles sur la vue, tous les pires symptômes de son étrange maladie s'étaient manifestés d'une façon plus alarmante à chaque heure. Mrs. Sheldon et Diana s'étaient prononcées contre le voyage. Mrs. Sheldon avec tout le sérieux dont elle était capable, et Diana avec autant d'insistance qu'elle pouvait mettre dans la discussion d'une question où sa voix avait aussi peu de poids. Mais sur ce point, Sheldon était resté inflexible. « Elle sera mieux à Londres, » dit-il résolument. « Cette excursion au bord de la mer était une fantaisie de ma femme, et comme beaucoup d'autres des fantaisies de ma femme, elle a entraîné pour moi des dérangements et de la dépense. Comme de raison, je sais que Georgie a cru agir pour le mieux, » ajouta-t-il après un « Oh, Philippe !» arraché sur le ton du reproche à Mrs. Sheldon. Mais toute cette affaire a été une erreur. Nous n'étions pas plutôt installés ici confortablement que Mr. Hawkehurst se met dans la tête de se montrer ridiculement alarmé au sujet de Charlotte et veut amener une demi-douzaine de docteurs auprès du lit de la pauvre enfant, au risque d'un inévitable péril. Car dans une maladie où il y a faiblesse mentale, toute apparence d'alarme ne peut produire que du mal. Ceci dit, Sheldon ne perdit pas de temps pour prendre toutes les dispositions pour le voyage. Une voiture fut commandée, tous les préparatifs furent faits pour le confortable de la malade, tout ce que la prévoyance la plus attentive ou la bonté pouvait suggérer fut fait, mais la cruauté qu'il y avait à imposer le voyage en lui-même à la malade n'en était pas moins évidente. Georgie se lamentait piteusement sur tous les embarras que cela allait causer. Diana s'inquiétait peu de ces détails, mais elle était indignée contre le beau-père de Charlotte et elle ne cherchait pas à dissimuler son indignation. Ce ne fut pas sans avoir tenté de résister à l'autorité de Sheldon que Miss Paget succomba dans son opposition. Elle en appela à Mrs. Sheldon. « Chère Mrs. Sheldon, je vous supplie de ne pas souffrir le déplacement de Charlotte, » dit-elle du ton le plus sérieux. « Vous ne savez pas à quel point elle est malade. Mr. Sheldon ne le sait pas non plus. Sans cela, il ne prendrait pas un pareil parti. Comme sa mère, votre autorité est supérieure à la sienne. » Vous n'avez qu'à dire qu'elle ne sera pas emmenée de cette maison dans l'état de prostration et de maladie où elle se trouve. « Je n'ai qu'à dire, » répéta Mrs. Sheldon d'un ton dolent. « Ah, Diana, comment pouvez-vous dire pareille chose ? Que penserait Mr. Sheldon si je me mettais en opposition avec sa volonté et si je déclarais que Charlotte ne bougera pas d'ici ? Lui qui est si plein de sollicitude et si savant ? » « Je puis le dire, sa conduite envers ma pauvre Charlotte est positivement admirable. Jamais je n'ai vu pareille anxiété. Mais il semble avoir vieilli de 10 ans depuis le commencement de sa maladie. On parle des beaux-pères, on dit ceci, on dit cela, au point qu'une pauvre veuve est effrayée de se remarier. Mais je ne crois pas qu'un véritable père aurait pu être plus prévoyant et plus rempli de soins pour sa fille que Philippe ne l'a été pour Charlotte. » Et en récompense, il faudrait que je me mette aujourd'hui en opposition avec lui quand il dit que ce voyage est pour le bien de Charlotte et qu'elle sera plus près des docteurs si elle a en effet besoin des soins d'habiles docteurs. Vous ne savez pas l'expérience qu'il a et comme il est réfléchi. Je n'oublierai jamais sa bonté pour le pauvre Tom. « Oui, s'écria Diana avec impatience, mais Mr. Halliday est mort. « Oh, Diana, gémit Georgie. Je ne croyais pas que vous seriez aussi peu charitable pour me rappeler cela. Je ne veux vous rappeler qu'une chose, c'est que Mr. Sheldon n'est pas infaillible. » Sheldon entra sur ses entrefaites et Diana sortit indignée contre cette faible créature à laquelle aucune crise, aucun danger ne pouvait donner un peu de force d'esprit et de volonté. Une brebis saurait combattre pour défendre son agneau, pensa-t-elle avec colère. Mrs. Sheldon est au-dessous d'une brebis. C'était la première fois qu'elle avait une pensée malveillante pour cette pauvre âme faible, et sa colère se changea vite en pitié pour la malheureuse nature de Mrs. Sheldon, si complètement dominée par le joug qu'elle subissait. Elle n'essaya plus de résister et se rendit dans la chambre de Charlotte pour tout préparer pour le voyage. « Oh, pourquoi ce voyage, chère ? » dit Charlotte d'un ton plaintif. « Je suis trop malade pour être transportée. »« C'est pour votre bien, ma chérie. Mr. Sheldon veut que vous soyez à proximité des grands médecins qui vont vous rendre la force et la santé. »« Il n'y a pas de médecin qui puisse faire ce miracle. »« Laissez-moi ici, Diana. Priez papa de me laisser ici. » Diana cacha son visage derrière l'épaule de la malade. Ses larmes l'étouffaient. Contenir l'explosion de la douleur était une torture presque impossible à endurer, mais elle dut cacher toute trace de colère et de chagrin, et ne songea qu'à aider la voyageuse à supporter les fatigues du voyage. Charlotte était étendue sur un sofa dans sa chambre à coucher, ayant auprès d'elle Nancy, quand le docteur Jed arriva. Il était 6h moins le quart, et le soleil couchant répandait ses rayons dans la chambre. Le médecin vint avec Valentin et ne demanda pas à voir Sheldon avant de se rendre à la chambre de la malade. Il dit à la servante qui lui ouvrit la porte de le conduire auprès de Miss Halliday. « La garde-malade est auprès d'elle, je suppose, » dit-il à la fille. « Oui, monsieur, du moins Mrs. Wolper est avec elle. C'est bien. » Sheldon entendit des voix dans l'antichambre et sortit du petit salon au moment où le docteur montait la première marche de l'escalier. « Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-il à Valentin. « Je vous ai dit que l'opinion du docteur Dodelson ne me satisfaisait pas, » répondit froidement le jeune homme. « Monsieur est ici sur ma demande. » « Et de quel droit, je vous prie, vous permettez-vous d'amener un docteur de votre choix auprès de ma belle-fille sans vous être au préalable entendu avec moi ? Du droit que me donne l'amour que j'ai pour elle. Je ne suis pas satisfait du traitement médical que votre belle-fille a reçu dans cette maison, Mr. Sheldon, et j'éprouve le besoin d'être satisfait. Miss Halliday est quelque chose de plus que votre belle-fille, veuillez vous le rappeler. Elle est ma fiancée. » « L'opinion du docteur Jedd aura plus de poids pour moi que celle du docteur Dodelson. » En entendant le nom de Jedd, Sheldon tressaillit légèrement. C'était un nom qu'il ne connaissait que trop bien, un nom qu'il avait vu figurer parmi ceux des experts chargés de faire leur rapport dans le grand procès criminel de Fryar, dont les comptes rendus avaient exercé sur lui une horrible fascination. Il s'était figuré être à la place de Fryar l'empoisonneur, et cette idée avait fait courir un frisson glacé dans ses veines. Mais l'instant d'après, il s'était dit « Je ne suis pas un imbécile comme ce Fryar, et je ne me suis pas exposé au risque qu'il a couru. » À ce nom de Jedd, le même frisson glacé courut de nouveau dans ses veines, et son ton de colère contenu fit place à une politesse presque servile. « J'ai l'honneur de connaître le docteur Jedd de réputation, et je retire mes observations contre votre manière de procéder, mon cher Hawkehurst. Quoique je suis sûr que le docteur sera d'accord avec moi que cette manière d'agir est absolument contraire à l'étiquette professionnelle, et que Mr. Dodelson aura le droit de s'en trouver offensé. « Il y a des cas où l'on ne songe guère à l'étiquette, » dit le docteur Jedd. Je serai heureux de me rencontrer demain matin avec le docteur Dodelson. Mais Mr. Hawkehurst m'a paru si désireux que je visse Miss Halliday ce soir que je me suis décidé à écarter toute question de cérémonie et à venir avec lui. Je ne puis blâmer son désir de s'assurer une opinion aussi précieuse. Une seule chose m'étonne, c'est la bonne étoile qui l'a guidé vers un aussi excellent conseiller. Le regard de Sheldon allait du docteur Jedd à Valentin en disant cela. Leur physionomie ne lui en apprenait pas davantage qu'une simple feuille de papier blanc. Le visage de Valentin était sombre et triste, mais cette sombre tristesse s'expliquait tout naturellement par le chagrin qu'il éprouvait. « Je vais vous conduire immédiatement à la chambre de ma belle-fille, » dit-il au médecin. « Je pense qu'il vaut mieux que je voie la jeune personne seule, » répondit froidement le docteur, c'est-à-dire en présence de sa garde-malade. « Comme il vous plaira, » dit Sheldon. Et il rentra dans son cabinet. Georgie était là, assise dans un coin, et faisait entendre de faibles gémissements. Près d'elle était Diana, muette et triste. Une tristesse lugubre, comme celle de la tombe, régnait dans toute la maison. Sheldon se jeta sur son siège avec un geste d'impatience. Il avait traité légèrement l'inconvénient de l'enlèvement des tapis, mais il commençait à en comprendre le désagrément. La présence de ces deux femmes dans son cabinet lui était insupportable. Il lui semblait qu'il n'y avait pas dans la maison une seule pièce où il pût être seul, et jamais il n'avait eu plus cruellement besoin de méditer dans la solitude qu'en ce moment. « Voyez à ce qu'on nous fasse dîner quelque part, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de tapis, » dit-il à sa femme. « Il nous faut des pièces pour dîner et je ne puis vous garder ici, j'ai des lettres à écrire. » Mrs. Sheldon et Diana comprirent à demi-mot. « Il est certain que je n'ai que faire ici ou partout ailleurs, » s'écria Georgie d'un ton lamentable. « Je suis si malheureuse au sujet de Charlotte que si je pouvais me coucher et mourir, ce serait un soulagement pour moi. C'est véritablement une dérision de parler de dîner dans un moment comme celui-ci. » « C'est juste comme au temps de la maladie de mon pauvre Tom, où l'on faisait cuire des volailles et toutes sortes de choses dont personne ne mangeait. »« Pour l'amour du ciel, allez-vous-en !» s'écria Sheldon avec colère. « Votre caquetage perpétuel est une torture pour moi. » Georgie s'empressa de sortir, suivi par Diana. « Vîtes-vous jamais quelqu'un d'aussi tourmenté ?» s'écria Mrs. Sheldon avec une sorte d'orgueil. « Je préférerais voir Mr. Sheldon moins inquiet, » répondit Diana gravement.